vous faites couler un liquide, vous le faites couler trop vite et finit par craquer. Ça fait des bulles, il craque. Si on arrive, je crois, à faire passer ce message-là, qui me semble être quand même très simple, je crois que ça serait déjà une bonne chose. C'est un mauvais phénomène puisque ça limite les performances des machines, ça limite les performances des pompes, des turbines, des hélices de navires, des hélices de sous-marins.
La cavitation, c'est quelque chose à combattre, en tout cas à connaître afin de pouvoir limiter ses effets. Alors ces effets, c'est quoi ? Les premières manifestations qu'on perçoit, c'est des manifestations sonores, c'est du bruit, c'est des vibrations aussi.
Dans la production d'électricité, il y a des circuits fluides partout pour transporter l'énergie, pour la transformer, pour refroidir, avec des grandes vitesses d'écoulement. Et donc la cavitation apparaît dans de nombreux composants. Quand elle fait des dégâts, ça induit des coûts de réparation, des remplacements de pièces.
Alors on peut dire que les chantiers navals civils sont préoccupés par deux conséquences principales de la cavitation. Il s'agit des vibrations qui compromettent le confort des passagers. Et puis il s'agit aussi des pertes de performance qui compromettent, elles, la consommation de carburant et puis éventuellement l'environnement.
Pour la marine militaire, le bruit généré par la cavitation est inadmissible puisque ce bruit nuit à la discrétion des bâtiments et principalement à celle des sous-marins qui, pour des raisons évidentes, doivent rester indétectables.
Bon, il faut savoir que quand un fluide en mouvement rencontre un obstacle, il doit le contourner. Ce contournement s'accompagne d'une accélération du fluide et donc d'une dépression. Donc dans cette zone de dépression au cœur du fluide vont se développer des structures de vapeur qui vont grossir. C'est ce phénomène qu'on appelle la cavitation. En quittant la zone de dépression, ces structures vont s'effondrer sur elles-mêmes, vont imploser. Schématiquement, on peut dire que cette implosion provoque les conséquences néfastes de la cavitation, à savoir le bruit en premier lieu, les vibrations. Et lorsque cette implosion se produit près d'une paroi, également l'érosion.
D'abord, il faut l'étudier pour bien savoir quand est-ce qu'elle se produit, où est-ce qu'elle se produit, quelle forme elle prend, des bulles, des poches, des tourbillons. Et puis, ma foi, il faut essayer de bien maîtriser ces effets néfastes, le bruit, les vibrations, l'érosion, et dans la mesure du possible, proposer des solutions pour repousser un peu les limites de fonctionnement de toutes ces machines qui butent sur la cavitation pour avoir des meilleures performances.
Ça nous a amené à nous poser des questions sur d'abord la mécanique des fluides, puis sur les problèmes de transposition entre modèles et prototypes. Alors le premier moyen, c'est d'utiliser les similitudes hydrodynamiques et donc de faire des essais sur des modèles réduits, essais qui sont transposables à diverses échelles. Sur les modèles se développe une cavitation similaire à celle qu'on aura sur le prototype. Les implosions et l'agressivité due à cette cavitation peut être aussi transposée au prototype.
C'est quand même ça un petit peu l'objectif. On fait un certain nombre d'essais, on obtient un certain nombre de résultats et l'objectif est de pouvoir se passer des essais pour faire une prévision par le calcul simple, une prévision des conditions de naissance de la cavitation de développement. Donc il y a aussi des gens qui, à côté des expérimentateurs, ont un travail de modélisation numérique. Une journée, c'est d'abord monter sur auprès des manips, monter sur le plan du tunnel, faire un peu le point de ce qu'on a fait hier, des mesures d'anémométrie laser qu'on a pu faire, des visualisations qu'on a pu faire, et puis de voir donc les points qui restent encore dans l'ombre, les points qu'on n'a pas encore très bien compris, les points à approfondir, et puis on met en route le tunnel, on règle les paramètres de fonctionnement, la vitesse, l'incidence, et puis on fait une nouvelle campagne d'essai. Du tourbillon, il y a le tourbillon marginal, mais c'est encore pas tellement ça, c'est des tourbillons plutôt dans les sillages, on voit des petites mèches des petits filaments tourbillonnaires. Et ça, on sait très mal comment se comportent ces structures-là. Donc, c'est pour ça qu'on a construit une petite manip qui permet de créer un seul tourbillon dont on maîtrise bien la taille, la longueur, dont on maîtrise bien les conditions d'implosion. Bon, c'est une manip à caractère fondamental, mais dont le but est justement de voir les dégâts que ça va causer.
Nos essais se basent sur de la visualisation, des mesures de fluctuation de pression, et en ce qui concerne l'érosion, des mesures de marquage d'échantillons que l'on polie avant de les soumettre à la cavitation.
En fait, les matériaux n'ont pas tous la même résistance face à la cavitation. Et pour les classifier, on utilise une installation qui permet de reproduire de la cavitation de manière très localisée et d'assurer que l'implosion de cette cavitation aura bien lieu sur une petite éprouvette.
Pour moi, un vrai grand moment, c'est le jour où on a des retours du réel et où on nous dit, écoutez, les recherches que vous avez conduites sur la cavitation, elles nous ont permis d'orienter le dessin des propulseurs de sous-marins de façon utile.
Mais tout le problème est de savoir qu'est-ce qu'on peut tolérer comme cavitation. Où est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce que la cavitation qu'on aura sera érosive ou est-ce qu'elle ne sera pas érosive? Donc, si elle est érosive, est-ce que 40 000 heures de fonctionnement, c'est OK, il n'y aura pas trop de dégâts ou pas? Tout le problème est un petit peu de faire avec cette cavitation et puis de juger un peu si c'est catastrophique ou pas. Quoi.
Les pompes dans les centrales, c'est important. Et donc, on étudie les limites d'utilisation de tous les types de pompes, notamment vis-à-vis de l'érosion. Et ça nous aidera dans les projets à dimensionner correctement les machines. Pour nous, on cherche à modéliser le bruit hydraulique rayonné par une vanne ou une pompe qui cavite. Et ainsi, on pourra prévoir le comportement vibratoire des circuits. Alors, ce qu'on cherche, c'est à bien comprendre le phénomène pour maîtriser ses effets et savoir fixer le niveau de cavitation qu'on peut accepter, qui sera l'optimum économique. Alors qu'auparavant, on prenait des marges importantes et on limitait les fonctionnements. Alors pour les turbines hydrauliques, c'est la cavitation qui va fixer l'enfoncement de l'implantation de la machine. Et donc ça joue directement sur les coûts de génie civil de la centrale. Oui, on est nombreux, il y a diverses applications de la cavitation, et puis il y a plusieurs laboratoires, plusieurs façons d'aborder le problème, que ce soit la modélisation numérique, que ce soit les mesures très fines qu'il faut faire pour essayer de mieux comprendre le phénomène de base.
Les turbopompes de moteur-fusée, c'est assez critique parce que on essaye là aussi de pousser encore plus loin les limites de fonctionnement de la machine, c'est-à-dire d'avoir un comburant qui va alimenter les turbopompes qui a pression aussi faible que possible, mais s'il est à faible pression, il va être très vite susceptible de caviter. C'est des affaires économiques, effectivement, et qui ont une certaine importance.
Mais il n'y a pas que les hélices qui cavitent sur les bâtiments, il y a aussi tous les appendices qui peuvent dépasser des coques, les safrans stabilisateurs, même les gouvernails. Au musée des hélices, vous aurez un petit peu l'histoire du dessin des hélices. Bon, on voit qu'aux premières formes ont succédé assez rapidement, et en particulier pour cause de cavitation, des formes à des vers importants, en modifiant en fait la répartition de pression sur la surface des pales, pour envoyer aux oubliettes des designs qui induisaient en fait des zones de l'hélice où la cavitation avait toutes les chances de développer et puis d'avoir des conséquences nuisibles.
C'est clair que notre objectif est de faire en sorte que le propulseur qu'on dessine soit un optimum entre ses performances propulsives et sa discrétion acoustique, par exemple. L'hélice doit être performante, mais ne doit pas faire de bruit.
Alors on touche là des intérêts qui ne sont pas directement économiques, qui sont plutôt des intérêts de nature opérationnelle, militaire, mais qui sont des intérêts très, très aigus. Il faut savoir, par exemple, que la discrétion d'un sous-marin nucléaire dépend en grande partie des performances en cavitation de son propulseur. Donc à ce niveau-là, il est évident qu'il y a des intérêts qui sont majeurs.
Le phénomène de cavitation sur les hélices est fortement influencé par le sillage de la carène. Et donc il est primordial de pouvoir tester l'hélice en présence de l'écoulement qui est perturbé par cette carène et donc en présence de la carène. Et donc si on veut tester une hélice qui fait à peu près 25 cm de diamètre, à cette même échelle réduite, la carène va faire 6 à 7 mètres de long. Et donc on est obligé d'avoir une veine d'essai qui fait 10 mètres de long, 2 mètres de large à peu près sur 1,35 m de hauteur. Et pour avoir un écoulement, je dirais, aussi propre que possible, donc sans turbulence, avec des profils de vitesse le plus uniforme possible, pour simuler ce qui se passe en mer, on arrive à une installation qui fait 70 mètres de long, une quinzaine de mètres de haut, et à peu près autant de large, avec une puissance installée de l'ordre de 2 MW.
Le grand tunnel hydrodynamique, le GTH, est une des trois plus grandes installations d'essai hydrodynamique au monde. C'est véritablement un géant. Il est le seul à permettre un contrôle complet de la qualité de l'eau, c'est-à-dire un contrôle de la teneur en microbules, que l'on appelle germes, qui sont à l'origine du développement de cavitation.
Alors les caractéristiques du GTH en font non seulement une installation industrielle d'essai, d'hélice existante, mais également en font un formidable outil de recherche-développement pour la conception de nouveaux types de propulseurs.
En fait, avec l'augmentation des performances des équipements hydrodynamiques, la cavitation devient le paramètre limitatif à tout développement.
Il y a des contraintes de bruit rayonnées sur le cahier des charges de l'hélice, et donc on doit être en mesure, lors de nos simulations en tunnel de cavitation, de pouvoir mesurer le bruit rayonné de l'hélice et pas le bruit de l'installation elle-même.
Aujourd'hui, on sait que la cavitation est un phénomène incontournable. Mais par contre, on sait également gérer les développements de cavitation. On sait de quelle manière on peut la tolérer.
La cavitation, ce n'est pas une découverte. Mais vu les impératifs économiques d'aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher, vraiment comprendre les phénomènes de base pour pouvoir la maîtriser, pour pouvoir vivre avec, sans ses effets néfastes.
Thank you.